Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les vertus et les vices, c'est-à-dire sur notre vie chrétienne dans l'Esprit Saint ancrée en Jésus-Christ. Nous avons vu déjà dans la liste des sept vices capitaux l'orgueil, l'envie, l'avarice et la colère. Nous aborderons maintenant le vice capital de la luxure. La luxure qui est un désir désordonné ou alors une jouissance déréglée du plaisir sexuel. Il faut d'abord donc parler de comment Dieu a pensé l'homme et la femme, la relation entre l'homme et la femme. Et pour nous aider à entrer dans cette thématique que je comprends est très délicate, très sensible, je préfère commencer par une proclamation de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, la fin du chapitre 6. De la première lettre aux Corinthiens. Les aliments sont pour les ventres pour les aliments, et Dieu détruira ceci comme celui-là. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées, jamais de la vie. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps, car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Fouillez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui commet la fornication, lui, pèche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien acheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, parlons du corps. Vous savez, frère, la lettre aux Corinthiens que je viens de lire est très longue et variée, et saint Paul doit aborder plusieurs problèmes, plusieurs questions, y compris en ce qui concerne la sexualité, comme nous venons d'entendre. La sexualité est un grand cadeau du Seigneur, elle fait partie de notre identité pour toujours, elle est inséparable de l'homme. Il n'existe pas l'être humain neutre et ensuite l'homme et la femme. Non, on est toujours incarné, on est toujours soit homme, soit femme. Ça fait partie de notre identité essentielle. Dans l'Église, il n'y a aucun mépris de la sexualité, mais un grand honneur. Dieu a créé l'homme et la femme de telle sorte qu'ils peuvent s'unir et devenir une seule chair. C'est un mystère impressionnant et dans ce sens, il n'a rien de sale, au contraire. Dieu a voulu signifier dans cette union du mariage entre l'homme et la femme, l'union même du Christ et de l'Église son épouse. Tu te rends compte de la grandeur qu'il a mis dedans? Et en plus, cet amour, comme l'amour de Dieu, est ouvert à la vie, est fécond. Et cette union de l'homme et de la femme dans le mariage ne produit pas seulement l'union des deux époux, mais aussi s'ouvre à la vie. Les problèmes, je prends la communauté de Corinthe, les Corinthiens comme exemple pour nous aider à approfondir la question, c'est qu'à l'époque, les Corinthiens pensaient que la sexualité était comme l'acte de manger, un simple besoin naturel auquel il est impossible d'échapper. On ne peut pas rester sans manger, on ne peut pas rester sans relation sexuelle. Pire encore, ils considéraient la sexualité comme une affaire privée, où chacun décide selon ce qui lui convient, mon corps, mes règles, et du moment où on est consentant, on aime la personne, on ne voit pas où est le problème. De toute façon, selon leur mentalité dualiste, la sexualité ne touche que le corps, elle est extérieure, et le plus important, selon eux, serait le cœur, les intentions. Selon cette idée, donc, les seuls péchés qui existent seraient l'égoïsme, la colère, l'orgueil, le ressentiment. Alors, mes frères, je pense que vous l'aurez compris, besoin naturel, affaires privées où chacun décide pour soi et actions extérieures qui n'engagent pas les cœurs, ces trois façons de voir la sexualité sont exactement la mentalité païenne de notre époque. D'ailleurs, le lien est tellement grand que le mot grec utilisé ici pour parler des fornications est le mot porneia, d'où est venu le mot actuel de pornographie, par exemple. Et saint Paul, qui n'est pas du tout moraliste, qui ne va pas dire ceci est permis, ceci n'est pas permis, saint Paul élève le débat à un autre niveau. Il dit que ton corps est le temple de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, la présence de Dieu demeure en toi. En plus, par le baptême, tu es membre du corps du Christ. Le Seigneur t'appelle à faire de ton corps une liturgie de sainteté, un autel. Vous avez vu comment on finit cette parole. Glorifiez Dieu dans votre corps. Rendez gloire, faites de votre corps une liturgie de sainteté, un autel. Dans le mariage, ça se réalise aussi par l'union des époux, parce que c'est justement le sacrement de l'union. Mais dans les autres cas de figure, dans des personnes célibataires, que ce soit en célibat consacré ou pas d'ailleurs, dans le cas des veufs, des veuves, cette sainteté du corps s'exprime par la continence. Pour cela, nous allons parler de la vertu de la chasteté. Chasteté, c'est-à-dire l'intégration de notre sexualité dans notre état de vie, dans notre personne, l'unification du corps et de l'âme, de nos sentiments, de nos émotions, et en même temps de notre esprit, vous voyez. Donc, cette distinction est très importante. Saint Paul montre donc comment la mentalité a été inversée. Car dans l'usage de la sexualité en dehors du mariage, le péché n'est pas extérieur à toi, comme il pensait à l'époque, mais contre ton propre corps, nous dit Saint Paul. Ce n'est pas une simple affaire privée non plus, puisque ça se vit justement dans la relation interpersonnelle, pour devenir une seule chair avec quelqu'un d'autre et pouvoir même produire la vie. Ce n'est pas non plus un simple besoin naturel, comme manger, dormir, mais ça engage toute la personne, le corps, le cœur et l'âme. Oui, car si ils sont étroitement liés, tellement liés qu'il y aura une résurrection des corps, pas seulement de l'âme, mais une résurrection de la chair. Et même dans nos corps glorieux, nous serons toujours des hommes et des femmes. On ne va pas se marier, certes, dans le ciel, mais on gardera notre identité sexuelle, car elle est partie intégrante de notre humanité. D'ailleurs, aujourd'hui au ciel, il y a déjà un homme, Jésus-Christ ressuscité, et une femme, sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Vous voyez, mes frères, bien sûr, on va parler maintenant, j'ai voulu commencer par ce côté positif pour parler de la grandeur du corps, la grandeur de l'amour humain, du mariage humain, pour ne pas tout de suite, comme beaucoup de philosophes ont accusé le christianisme, d'envenimer la réalité la plus belle de la vie. Friedrich Nietzsche, notamment, disait que l'Église avait transformé ce qu'il y a de plus beau dans la vie, l'amour d'un homme et une femme, en envie. Pas du tout. L'Église met à l'honneur le mariage, l'amour, le corps humain. On va parler même donc de la résurrection du corps. Le problème, c'est quand ça se dégénère en vice. Bien sûr, tous les hommes, toutes les femmes sont très faibles. En plus, aujourd'hui, nous sommes bombardés par les images dans une culture qui n'a plus de pudeur. Nous savons, dans une mentalité aussi très néo-païenne, comme nous avons dit tout à l'heure. Mais l'Église nous enseigne que la chasteté est un cheminement, pas à pas avec le Seigneur qui nous guérit, qui nous pardonne, qui nous corrige, qui nous enseigne avec beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde. Il y a la loi des croissances. Non, dans la chasteté de chacun. Mais vous comprenez que parler de loi de croissance, que parler d'un cheminement, cela n'enlève pas la beauté de la vérité et surtout la possibilité de la vivre, comme nous le dit saint Paul. Alors mes frères, après cette introduction un peu longue mais nécessaire, parlons donc du vice de la luxure, du vice capital. Le mot français luxure vient du latin luxuria. À l'origine, il y a le mot luxus, c'est-à-dire le luxe, l'excès. Et en grec, donc porneia, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Comme pour les autres vices et vertus, dans les Écritures, on peut trouver ce vice capital de la luxure exprimé par d'autres mots. Parfois, on parle d'impureté, d'impudicité, de débauche ou tout simplement des fornications, comme dans la traduction de la lettre aux Corinthiens que j'ai utilisée tout à l'heure. Ici, nous allons parler donc des actes de ces vices, les enfants de ce vice de la luxure, qui est ce désir désordonné, cette jouissance déréglée du plaisir sexuel. Et bien évidemment, notre intention ici, ce n'est pas de blesser la sensibilité. Il y a une pudeur aussi, même dans le parler, dans le langage, vous voyez. C'est très important, quand on parle de ces thèmes-là, de ne pas être vulgaire. C'est important de dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps de garder une certaine pudeur pour ne pas blesser la sensibilité des gens dans une matière qui est tellement sensible. Donc, quelles sont les façons qu'on peut tomber, disons, par la luxure, où on peut tomber avec la luxure, quels sont ces désirs et ces actions désordonnées? La première chose, bien sûr, c'est quand on cherche le plaisir sexuel tout seul ou quand on le cherche avec un autre tout en n'étant pas marié, ce qu'on appelle la fornication. Si l'un des deux est marié, on parle de l'adultère. L'adultère, c'est quelque chose de très grave, vous le savez, parce que au-delà de la luxure, il y a aussi un acte d'injustice à l'intérieur de l'adultère vis-à-vis de l'autre, soit du mari ou de la femme qui a été trompée. La pornographie aussi, et nous savons combien ça peut amener à des addictions très graves. La prostitution, bien évidemment, combien de femmes exploitées dans le cas de la prostitution. Le viol, n'en parlons pas, tellement grave. Vous avez plusieurs degrés, bien sûr, dans le vice de la luxure. Et les conséquences les plus fréquentes sont la tristesse, le mépris de l'autre considéré désormais comme un simple objet de plaisir, le mépris de soi aussi, la haine de Dieu et de la religion. On peut être amené jusqu'à la haine de Dieu et de la religion qui interdisent ces plaisirs-là, vous voyez. Le désespoir sur l'avenir, l'obsession, ce qu'on appelle l'aveuglement de l'esprit. On ne pense qu'à avoir du plaisir n'importe comment, avec n'importe qui. Alors, mes frères, comment combattre ce vice de la luxure? Tout d'abord, la chasteté, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, cette intégration de toute la personne, de sa sexualité, de son corps, de son cœur, de son âme, la continence, la prière, le jeûne, la fuite des occasions. On dit souvent que quand on est tenté, quand il y a les tentations, fuir les tentations, ce n'est pas de la lâcheté comme on aurait pu penser, mais c'est du courage. C'est la seule occasion où prendre la fuite est une démonstration de courage. L'amour à la Vierge Marie, donc le chapelet notamment, mais l'amour à la Vierge Marie est une aide très grande pour avoir la chasteté, pour combattre la luxure. La confession fréquente quand on est tombé, la communion fréquente, savoir demander de l'aide à des personnes compétentes, la tempérance, par exemple la tempérance de l'alcool, savoir se contrôler parce que l'alcool ouvre la porte à la luxure, la pudeur dans sa façon de s'habiller, dans son regard, éviter les relations malsaines et avoir des amitiés saines. Il ne faut pas oublier non plus que la tradition de l'Église appelle le mariage le remède à la concupiscence. Alors là, il faut préciser et expliquer un peu. Le mariage est beaucoup plus grand que cela. Ce n'est pas seulement un remède de la luxure, bien évidemment. Nous avons vu la grandeur du mariage comme sacrement de l'union du Christ et de l'Église, comme signe efficace de cet amour. Mais il y a aussi ce côté-là. C'est saint Paul qui nous l'a dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7. « Si quelqu'un pense, en étant en pleine ardeur juvénile, qu'il risque de mal se conduire vis-à-vis de sa fiancée et que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche pas qu'il se marie. » Donc le mariage aussi, savoir utiliser le mariage comme un remède à la luxure. Et la pudeur dans les vêtements, je disais, mais j'insiste parce qu'aujourd'hui c'est tellement important. Regardons maintenant un petit peu la relation avec les autres vices. Avec l'orgueil, bien évidemment, qui est partout, qui se mêle partout. Il y a un dicton italien qui est très intéressant, qui dit « superbia nascosta, lussuria manifesta », c'est-à-dire « quand l'orgueil est caché, la luxure se manifeste ». Souvent, la luxure donc révélerait un orgueil caché quelque part. Et dans ce sens, elle peut être vécue comme une humiliation qui fait baisser l'orgueil. On se sent sale après un péché de luxure et on est confronté à notre faiblesse alors qu'on se croyait parfait et impeccable. La jalousie, l'envie, est très liée à la luxure aussi, nous le savons. La luxure peut provoquer des jalousies, même meurtrières, malheureusement. Pour l'avarice, nous savons le lien entre l'argent et le sexe, les deux moteurs du monde, comme disent les grands de ce monde, liés au désir de pouvoir, de domination, souvent liés dans les perversions les plus bizarres chez des grands de ce monde, des puissants de ce monde. La colère peut être une conséquence de la luxure, la paresse, la lassitude aussi, mais elle peut être la cause surtout de la luxure. Nous allons voir dans l'émission dédiée à la paresse, mais l'oisiveté, nous le savons, est la mère de tous les vices. La gourmandise est appelée l'avant-garde de la luxure, c'est-à-dire que manger trop, boire trop, peut éveiller la sensualité, peut éveiller les sens. Enfin, nous savons déjà que tous les vices capitaux sont liés, comme nous dit le psaume 42, « Un abîme en appelle un autre ». Alors, en petits mots, bien sûr, puisqu'on parle de sexualité, sur la question de l'homosexualité, une question très délicate aujourd'hui, mais qu'il faut aborder d'une façon ou d'une autre. L'Église nous enseigne le respect de la personne. On ne juge personne, on ne se moque de personne, on ne discrimine personne. Mais les problèmes, ce ne sont pas les personnes, mais les actes. Et là, l'Église montre que les actes sont contraires à la nature des choses, à la sexualité, comme Dieu l'avait pensé dans son projet d'amour. Même si cette question de la personne homosexuelle reste un mystère, de cette tendance reste un mystère inexpliqué jusqu'à aujourd'hui, et l'Église nous rappelle que la personne qui a cette tendance est appelée à la chasteté, dans la continence, comme les autres d'ailleurs. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas mariées, hommes, femmes, mariées, sont appelées à la continence. Donc, les homosexuels aussi. Et ce n'est pas impossible, ce n'est pas une torture, puisqu'avec la grâce de Dieu, il est possible de vivre dans la chasteté, de retrouver la beauté de cette vie dans le Christ.
Alors, mon père, est-ce que dans la Bible, et surtout Jésus, donne aussi des indications qui confirment la politique de l'Église, quoi, les directions de l'Église ?
Oui, bien sûr. Jésus-Christ, il va même plus loin des actions. Ici, j'avais décrit avec vous des actions de ce vice de la luxure, de cet usage désordonné, déréglé de la sexualité. Jésus va plus loin et il va placer tout ça au niveau aussi du cœur, du regard. Je vous lis un petit extrait du Sermon sur la montagne, donc de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. C'est-à-dire que finalement, Jésus place la source de nos actions dans notre désir, dans notre pensée, dans notre regard. Et ça nous aide même dans le combat, parce qu'en écoutant Jésus, on aurait pu dire, alors il rend la chose encore plus difficile. Non, c'est-à-dire que si on s'occupe de la purification du regard et du cœur d'abord, les actions vont s'en suivre. Si nous nous occupons de cette guérison qui vient par la grâce de Dieu, bien sûr, si nous nous laissons guérir et prendre par la grâce de Dieu, dans notre cœur tout d'abord, ensuite notre comportement, nos actions commenceront aussi à changer. Il y a une conversion du cœur et du regard qui précède et accompagne bien évidemment la conversion aussi des mœurs plus extérieures, vous voyez. Et je voudrais conclure l'émission d'aujourd'hui avec un extrait toujours de Saint Paul de la première épître aux Thessaloniciens qui est très fort mais très révélateur de l'importance du sujet. C'est le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de vous sache user de son corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.